Alors c'est pas super clair, il a repris exactement la saisine, ce qu'on appelle la saisine, c'est l'ensemble des griefs qui sont notifiés. C'est exactement le même texte que pour le 7 juillet, donc les mêmes extraits de rapports d'inspection. C'est le même intitulé en fin de saisine qui est marqué, simplement il ne s'est plus indiqué insuffisance professionnelle. Mais on n'a pas réussi, on ne sait toujours pas réellement dans quel cadre on est, s'il y a des motifs qui relèveraient de l'insuffisance et d'autres motifs qui relèveraient de la faute. Donc il fait un gloubi-boulga de cette chose-là, et on n'arrive pas à savoir précisément. Or, ça ne donne pas la même nature des choses.
Entre-temps, pendant l'été, il y a eu aussi une décision du tribunal administratif qui a annulé une décision de l'inspection d'académie qui t'avait retiré, je crois, une trentaine de jours de salaire. À toi ainsi qu'à d'autres désobéisseurs des Bouches-du-Rhône ?
Ouais, on était deux, ma collègue Christine Jousset de l'école des convalescents aussi. On avait porté plainte devant le tribunal administratif, donc en référé suspension, pour des retraits de 32 jours de salaire, ils considéraient qu'on n'avait pas effectué notre service dans le cadre de l'aide personnalisée. Alors nous, on dénonce cette aide personnalisée avec l'appui d'un certain nombre de personnes, dont le professeur Montagnier, chronobiologiste. Et on organisait des ateliers du midi avec le soutien de la mairie de secteur 1-7 de Menouchi, et en proposant qu'il y ait la création d'un CLAE, un centre de loisirs associé à l'école. Donc on a fait les heures. On a pris les gamins, mais pas du tout selon les modalités, sachant que les modalités ne sont pas parties très précises. Il y a un tas d'instituts qui ont pratiqué comme on a pratiqué, même dans notre circonscription, dans le groupe d'école qui est rattaché à un inspecteur d'éducation nationale. On a su aussi que d'autres faisaient comme ça, mais qu'ils n'avaient pas été ennuyés. Et nous, on nous ponctionne 32 jours de retrait de salaire qui sont effectifs. Là. Et donc le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas de service non fait. Le service non fait, c'est soit on n'était pas présent du tout avec les gamins, soit qu'on n'avait pas effectué selon les modalités données. Or, les modalités, elles ne sont pas précisées. Donc, on considère que si, on a fait notre service. Donc, ça a été une suspension des retraits. Mais bon, comme le tribunal s'est posé, nous, on reçoit nos feuilles de salaire un peu tardivement. C'est quand même effectif. Mais bon, l'État était quand même condamné à payer au moins les dédommagements, donc 1000 euros chacun. Et à suspendre les retraits qui ont malgré tout déjà été faits. Bon, ils se pourvoient devant le Conseil d'État, donc ils vont être obligés de suivre au niveau du Conseil d'État. Je pense que c'est aussi une pratique, une manière pour l'État de dire ben, on vous tient sur la durée, on vous tient sur le fric, parce qu'au niveau du Conseil d'État, c'est des avocats spécialisés aussi, on change de calibre aussi en termes financiers. Et puis c'est une poursuite juridique à long terme. Quoi. Bon, il faut voir que le tribunal administratif a jugé là juste sur le référé, il n'a pas jugé sur le fond pour l'instant. Alors, il y a eu une autre désobéisseuse qui a porté plainte aussi pour des retraits de salaire. Les autres continuent à réfléchir s'ils vont le faire. Donc ça sur les Bouches-du-Rhône. Hein. Sachant que nationalement, Bastien Casals avait porté plainte aussi, avait eu gain de cause. Et bon, j'ai pas d'écho d'autres personnes.
Donc le 17 septembre, il y a eu cette nouvelle commission disciplinaire, cette fois-ci pour faute professionnelle. Ça s'est déroulé de 15h à 4h du matin, si je me souviens bien. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé ?
Oui, donc convoqué à 15h volontairement. Le 27 août, il avait aussi convoqué à 15h, alors qu'on les avait prévenus le 7 juillet. On était convoqué à 9h le 7 juillet, mais ça a duré 3h uniquement sur des problèmes de vice de forme et juridique. Et on les avait prévenus que ça allait durer très longtemps, puisqu'on avait d'autres, on n'avait pas vu tous les points juridiques, et qu'après on avait une défense sur le fond assez sérieuse et qui allait durer longtemps. Donc ça pose de sérieuses questions et interrogations sur la volonté de réellement pouvoir discuter en convoquant quelque chose à 15h. Et ce qu'on avait annoncé s'est donc passé, c'est-à-dire que tout le débat juridique a été long. Et que les premiers témoins de la défense, après avoir passé les quatre témoins, donc les quatre inspecteurs de l'administration, les premiers témoins de la défense sont passés à 11h, le dernier témoin a passé à 2h, 2h un quart du matin. Et donc les premières plaidoiries, à 3h moins le quart, ça a démarré. Quoi. À 3h un quart, 3h30, il y a des gens qui normalement et comme nous ont commencé aussi à avoir du mal à à plaider correctement avec l'état de fatigue. Il y a quelques personnes qui s'endormaient, autant dans la défense que du côté administration ou défense du personnel. Et on a considéré qu'il fallait stopper cet archaïsme-là et qu'on avait un petit peu de dignité quand même humaine et qu'on ne continuait pas à parler à des murs. Et que si on avait une plaidoirie à faire, il fallait qu'elle soit entendue. Donc les défenseurs et moi-même, on s'est levés et on a quitté l'assistance. Donc il y a les deux tiers de la plaidoirie défense qui n'a pas pu être faite. Et donc ensuite, la commission, qui n'est que consultative, a délibéré.
Malgré tout,
oui, on peut le dire, malgré tout, ils auraient pu aussi quitter aussi l'Assemblée, considérant l'archaïsme. Et puis l'inspecteur d'académie, président de la commission, a fait une proposition de sanction qui est mutation. Il y a eu un vote dessus qui a donné un résultat de 10 pour, 8 contre et 2 abstentions. Et donc on en est là maintenant, parce que j'attends, ce n'est que l'avis consultatif, mais la décision relève de l'inspecteur d'académie qui doit me la notifier. Quoi. Donc j'attends ma nouvelle nomination, s'il en reste bien là, sur cet avis de la commission. Quoi.
Est-ce qu'on sait qui sont les 10 pour, les 8 contre et les 2 abstentions ?
C'est à bulletin secret. Après, ce sont que des suppositions. Les 10, faut voir dans la commission, il y a 10 représentants du personnel, 10 représentants de l'administration, dont le président de commission, qui n'est autre que l'inspecteur d'académie. Donc on va mettre avec prudence, mais on imagine peu, vu l'attitude hyper agressive de l'ensemble de l'administration, qu'ils se soient abstenus ou qu'ils aient voté contre. Donc, on imagine que les 10 relèvent de l'administration. Donc ça bascule du côté des 8 et 2, ce serait du côté des représentants du personnel, des élus du personnel. Donc 2 abstentions qui pèsent lourd dans la balance.
Tu as vécu cette commission disciplinaire dans quel état d'esprit toi ?
On était assez combatifs, on avait préparé quand même, on avait une équipe de... Moi j'avais 4 défenseurs, des syndicalistes, des pédagogues, une avocate qui était là aussi, Maître Semeriva, l'avocate qui avait plaidé d'ailleurs au tribunal administratif pour les retraits de salaire. Le dossier il était blindé. Moi je suis intervenu plusieurs fois aussi pour rappeler les faits, des faits qui n'apparaissent pas. Et rappeler aux inspecteurs un petit peu leur comportement aussi et certaines choses qu'ils ont fait sous pression de l'inspecteur d'académie. J'avais 12 témoins. Donc ça c'était vraiment pointu, une équipe performante. L'intérieur c'est de l'archaïsme, c'est des commissaires qui se retiennent pas, qui sont dans le déni, qui sont dans les sarcasmes, qui sont dans l'agressivité du côté de l'administration. Du côté des représentants du personnel, une certaine mollesse, et je reste relativement gentil en disant ça, il y a quand même très très peu d'interventions. Ça n'amène pas un combat par rapport à la puissance en face et aux pressions, ça n'amène pas un équilibre. Quoi. Donc on a vraiment l'impression d'une mascarade, l'impression d'être dans un tribunal d'exception. Et qu'à partir de là, on défend tout ce qu'on peut, on signale tout ce qu'on peut, mais on a vraiment l'impression que c'est peine perdue malgré tout. Quoi. C'est, et que la décision était déjà prise. Quoi. Ça sent un peu ça. Il y a un mois, le 31 août, un autre désobéisseur, François Delillot, passait devant une commission disciplinaire aussi à Foix en Ariège. Et ils ont eu la même sensation. Ça a duré 12 heures, de la même manière, de 9h le matin à 9h le soir. Et suspension aussi, mutation de la même manière aussi. Quoi.
Oui, pour l'instant, c'est souvent les sanctions qui sont appliquées aux désobéisseurs, c'est des mutations. Il n'y a pas encore eu de révocation, de licenciement de désobéisseurs.
Non, il n'y a eu aucune révocation. Alain Refallo avait eu une rétrogradation d'échelon. Donc c'est une perte de fric en fait, simplement. Mais qui s'inscrit dans le temps. Et puis les autres, c'était plus ils étaient attaqués plus sur la base élève. En fait, ils étaient directeurs, Bastien Casals et Isabelle Huchard. Donc ils ont perdu leur emploi de direction. J'oublie son prénom, m'échappe dans l'Isère, le premier à avoir eu une suspension aussi de son poste de directeur. Donc il y a pas, je pense qu'ils ménagent. On a changé aussi de ministre. Châtel annonçait, avant même que les commissions aient lieu, annonçait qu'il y aurait des sanctions. Ce qui pose un certain nombre de questions en termes de droit aussi. Puisqu'il annonce clairement avant même que l'audience ait lieu que ce sera sanctionné. Par contre, ils n'ont pas forcément intérêt à montrer des martyrs et à taper trop dur. Donc ils nous muter, c'est nous gêner quand même particulièrement. Alors on n'est pas licencié, on n'est pas à la rue, on n'en est pas, c'est sûr, on ne perd pas notre poste, hein, on n'est pas dans la situation d'un tas de gens dans les entreprises qui perdent leur boulot, tout ça. Mais c'est une manière de casser aussi de nous mettre de la pression au quotidien en fait, et de nous empêcher de parler parce que ça devient compliqué de vivre tout simplement, quoi, parce que c'est des déplacements, c'est du harcèlement au quotidien. Quoi.
Toi, c'est une mutation dans le département là, qui a été proposée.
Ouais, alors nous on dépend des départements chez les instits, hein, donc les mutations se font au niveau départemental. Ouais. Donc pour l'instant, j'en sais rien, j'ai pas d'avis, peut-être qu'il va demander autre chose, j'en sais rien, il peut très bien aller plus fort. Là, on est il y a plusieurs niveaux de sanctions dans cette forme de faute professionnelle. Je ne sais pas ce qu'il va proposer. Pour l'instant, apparemment, ce n'est pas si urgent que ça, puisque ça fait déjà 2 jours qu'on me maintient sur mon poste, donc il n'y a pas réel danger. Hein. Mais comme on disait depuis le début, il n'y a pas réel danger, puisqu'on m'a laissé pratiquer mon enseignement toute l'année dernière. On m'a laissé faire la rentrée, là. Donc j'attends qu'on m'explique où est le danger réel pour les enfants. Si réellement il y a un danger sur les apprentissages, il faut qu'on me le démontre aussi. J'ai les évaluations à leur proposer, à leur montrer. Je les attends là.
Quelle va être ton attitude, toi, vis-à-vis de cette sanction? Est-ce qu'il y a des recours possibles?
Alors, il y a des recours devant le Conseil supérieur de la fonction publique. Et puis ensuite c'est le tribunal administratif, le Conseil supérieur de la fonction publique qui donne un avis en fait simplement, mais qui est important comme avis, quoi. C'est pas n'importe quel conseil. Et puis voilà quoi, on est devant les tribunaux à essayer de faire valoir, sauf que ça traite pas complètement de la question du fond au niveau de l'évolution, des pressions sur les pédagogies, des pressions sur les syndicalistes, des pressions sur toutes les personnes qui en fait remettent un tout petit peu en question l'autorité, en tout cas les ordres qui sont donnés. Ça ne règle pas complètement les problèmes. Ça donnera sans doute des réponses, mais pas complètes et satisfaisantes, quoi. Donc voilà, du point de vue des recours, c'est cela. Faire un recours auprès de l'IA, on ne voit pas très bien à quoi ça va servir. Et puis l'autre recours, il est dans les actions. C'est de continuer à faire valoir nos droits. Moi, je pratique quelque chose que les désobéisseurs ne mettent pas tellement en avant, mais qui me semble important. Et moi, je le mets en avant depuis avant que le mouvement des désobéisseurs arrive. On est dans une forme de résistance aussi face à la hiérarchie. Il y a une courroie là, importante de transmission des ordres et de pression sur le personnel qu'il faut absolument dénoncer. Alors je m'appuie sur des textes, on a le droit de refuser l'inspection et moi je fais des refus d'inspection dans un cadre d'action militante et syndicale pour dire qu'il faut réorganiser cette chose-là. On ne peut pas maintenir un archaïsme tel dans la fonction, c'est contre-productif en plus. Pas au sens capitaliste du terme, mais au sens d'une efficacité sur les apprentissages pour les gamins. On a moyen de fonctionner autrement, fonctionner davantage en collégialité, fonctionner davantage en échange de pratiques, et qu'on sépare, tant que ce ne sera pas séparé entre le contrôle, l'évaluation de la pédagogie et la formation, on n'arrivera pas à continuer à être réellement serein pour travailler. On sent bien que l'évolution ne va pas dans ce sens-là, puisqu'il y a une volonté ultralibérale de serrer la vis à tous ces endroits. On est dans des logiques de privatisation de l'ensemble des fonctions publiques, parce que la Poste en ce moment bouge énormément. On voit les dégâts que ça a fait avec France Télécom, et on voit les dégâts humains actuels. Et les pressions, elles sont là, elles sont en train d'être menées. Je donne souvent comme exemple, je vois une inspectrice que j'ai eue, je suis passé une semaine simplement avec elle quand il m'avait suspendu de la rue de la Paix pour me remettre sur une autre, sur l'histoire de la classe de neige, pour me remettre sur un autre poste. Je lui ai raconté à nouveau lors de la commission précisément le déroulement, comment ça s'était fait, dans quel cas de harcèlement, et ses propos qui disaient que c'était une erreur de me mettre sur le poste où indiquait l'IA. Et je lui ai rappelé que ça avait bien été un ordre de l'inspecteur d'académie. Bon, elle n'a pas moufté. Ça montre bien qu'on est vraiment dans des problématiques, soit des inspecteurs qui sont au diapason, qui sont vraiment dans la ligne politique sarkozyste, soit des inspecteurs qui sont pris, qui, ça fait corps, hein, ou qui sont pris dans une sorte d'endroit de l'expertise, et comme si les inspecteurs étaient les garants d'une pensée. Je pense à une de mes inspectrices qui n'a jamais été instite, par exemple. Hein. Ça me pose certaines questions sur l'analyse des pratiques. Donc il y a tous ces éléments-là, il y a les éléments auprès de la profession à refaire valoir aussi, en disant arrêtez d'avoir peur aussi, on vous pressure et on de manière insidieuse, on oblige à se diriger vers une pédagogie qui est celle de l'ordre, mais de l'ordre des durs, quasi religieux, quoi. Et ça vient par rapport à un certain nombre d'obligations qu'imposent les inspecteurs en disant vous avez besoin de tel outil, ou on vous demande tel ou tel outil de travail. C'est un petit peu technique ce que je raconte, mais ça raconte le fait qu'en fait, tout en disant qu'il y a une liberté pédagogique, les outils qu'ils demandent, sous pression du chef, et ben, y a un tas de collègues qui les prennent et mettent en place et qui font évoluer la pédagogie dans un certain ordre de pédagogie. Et quand on veut mener des pédagogies actives, donc des pédagogies qui à la fois sont de l'ordre de la rigueur, où les gamins vont apprendre, mais où on déplace la place justement de l'enseignant qui n'est plus en frontal, qui n'est même plus à côté, mais qui est à suivre les gamins, qui est avec là, et ben on est en train de construire un autre individu pour dans 15 ou 20 ans, et qui sera un individu beaucoup plus critique. Et c'est peut-être pas très intéressant pour un monde sarkozyste.